SBS Radio.
Les grands titres de ce mardi. En Australie, un rapport alarmant révèle un nombre record de décès par overdose de drogue. Un Australien arrêté officiellement en Chine et accusé d'espionnage. Le sommet de Biarritz s'est achevé avec une déclaration sur le commerce et les crises internationales. Un écrivain australien détenu en Chine depuis plus de 6 mois a été officiellement inculpé d'espionnage par les autorités locales. Ses avocats déclarent que le contenu des accusations portées contre Yang Hengyun n'est toujours pas clair. L'écrivain et blogueur d'origine chinoise a été arrêté à Guangzhou après s'être rendu en Chine depuis New York. Son avocat Rob Sterry soupçonne que ces accusations sont liées à son activisme pour la démocratie. La ministre australienne des Affaires étrangères, Maryse Payne, a déclaré que le gouvernement australien était déçu. Les experts de la santé ont appelé à une campagne de type péage routier pour lutter contre l'abus de drogue. Un nouveau rapport national montre que plus de 1 600 Australiens meurent chaque année d'overdose. Selon le Pennington Institute, les overdoses accidentelles dans le pays ont bondi de près de 40%. Le directeur général de l'Institut, John Ryan, a déclaré que ce nombre augmente depuis plusieurs années et dépasse maintenant le bilan des morts sur la route.
Well, I think that idea in the road toll, which is that we should aim towards zero, should be the same principle in relation to overdoses. So the area that concerns us is that there's not enough emphasis on overdose. It's killing a lot of Australians. They're coming from regional and rural Australia more than the capital cities. They're in all age groups. They're across the socioeconomic spectrum. So it's touching people from all walks of life, and we're really not doing anything about it. We're relying on law enforcement to try and arrest our way out of the problem. They've said that they can't do that. We've got to get the health sector to do more.
Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson aux États-Unis, condamné à payer 850 millions de dollars pour avoir vendu des opiacés dans l'État de l'Oklahoma dans le but de créer une demande pour ces antidouleurs opiacés. La compagnie fera appel, selon l'avocate Sabrina Strong.
The decision is fundamentally unfair in that it finds Johnson & Johnson responsible for the entirety of the opioid abuse crisis and the greater drug problems in this state, while there was no evidence at trial to support that finding.
Le procureur général de l'Oklahoma, Mike Hunter, affirme que dans le cadre de son marketing agressif, la société avait utilisé la pseudoscience et les informations trompeuses pour minimiser le problème.
Johnson & Johnson will finally be held accountable for thousands of deaths and addiction caused by their activities.
Le sommet du G7 à Biarritz en France s'est achevé par une déclaration commune d'une page portant sur le commerce et les crises internationales. Reportage Nicolas Falaise pour Radio France Internationale.
Les conclusions écrites de ce G7 tiennent en une page sur laquelle les chefs d'État et de gouvernement s'engagent d'abord à réformer les règles du commerce mondial afin, je cite, d'éradiquer les pratiques commerciales déloyales. Sur l'Ukraine, sur la Libye, sur Hong Kong, les paragraphes sont courts et sans surprise, appelant ici à des négociations et là à éviter des violences. Le texte ne mentionne pas la lutte contre les inégalités dont la France a fait sa priorité durant cette année de présidence du G7. Pas un mot non plus sur les questions environnementales, même si elles ont occupé une place importante durant ce week-end de discussion, et que le G7 a débloqué une aide d'urgence pour lutter contre les feux de forêt en Amazonie. Ce sommet de Biarritz s'est déroulé dans une ambiance très différente de celle qui était attendue. Chacun pouvait redouter des moments de tension face à Donald Trump. Au contraire, il accepte pour l'instant l'initiative française sur l'Iran et n'exclut pas une rencontre avec le président iranien Hassan Rouhani.
Et puis, il y a eu un contre-sommet du G7, l'analyse de Pierre Olivier pour RFI.
Les quelques 13 000 policiers et gendarmes mobilisés pour ce G7 auront eu raison des ardeurs des militants. Impossible ou presque de venir manifester leur mécontentement aux portes de Biarritz, une façon d'étouffer toute contestation selon cet altermondialiste.
On a eu beaucoup de difficultés parce que la présence policière était très forte, donc c'est vrai que ce côté-là, ils ont mis le paquet, c'était militarisé, on était fliqués, il y avait des hélicoptères de partout. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais vraiment, là, cette fois-ci, ils ont mis vraiment le paquet, quoi.
Un abattement que partagent beaucoup de militants, souvent résignés. La seule vraie mobilisation aura été la marche organisée samedi à Hendaye et qui a réuni 15 000 personnes. De leur côté, les organisateurs préfèrent insister sur la réussite de ce contre-G7. Aurélie Trouvé est la porte-parole du contre-sommet.
Nous rappelons que le contre-sommet est un grand succès, avec plus de 6000 personnes pendant les 3 jours de conférences, débats et ateliers. Ce contre-G7 montre la force de nos mouvements sociaux et la richesse de nos alternatives fondées sur la solidarité, la fin de tous les rapports de domination et la réponse à l'urgence écologique.
Lundi après-midi, une liste d'alternatives à la mondialisation écrite pendant le contre-sommet devait être remise en main propre aux 7 chefs d'État, mais les organisateurs n'ont même pas pu approcher du périmètre sécurisé.
Le président des États-Unis, pour sa part, a déclaré que le G7 travaille à un accord de longue durée concernant l'Iran. Il a confirmé être prêt à rencontrer le président iranien. Écoutez Donald Trump.
L'Iran est un pays qui a beaucoup de potentiel. Nous ne cherchons pas de changer le régime. Nous ne cherchons pas ce type de changement. Nous avons fait cela à de nombreuses reprises dans le passé. Cela ne fonctionne pas. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait pas de missiles nucléaires, pas de missiles balistiques. Et je crois très sincèrement que l'Iran peut être un très grand pays. Je souhaiterais que cela se passe. Si les circonstances le permettent, sans aucun doute, je serai d'accord. Mais d'ici là, ils doivent jouer de manière conforme, si vous me comprenez.
Et puis après le sommet de Biarritz, le président français était l'invité de la chaîne France 2 hier soir et il s'est exprimé entre autres sur les gilets jaunes.
Je souhaite, moi, qu'on entame une réflexion profonde sur la manière qu'on a de s'organiser. Parce qu'on ne peut pas rester dans ces situations-là. Et donc, je souhaite qu'on entame un travail, c'est ce que j'ai demandé au gouvernement, où on puisse éviter de manière durable ces situations. Parce qu'on ne peut pas accepter, au sens propre du terme, quand on est président de la République, citoyen français, de voir multiplier ces scènes. Et donc, il faut que le calme revienne. Nous sommes un pays où il y a la liberté de manifester, la liberté d'opinion, de choix, de critique, elle est permanente. Et pour qu'elles se maintiennent, on ne doit pas accepter la grande violence. Donc je souhaite, moi, qu'on fasse plusieurs choses. Qu'on ait une réflexion collective et un travail pour qu'on éradique progressivement la grande violence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, avec ces groupes qu'on appelle les Black Blocs, qui souvent étaient la raison de ça, qui s'infiltrent et qui font le pire, qui provoquent, qu'on arrive à trouver une solution durable, moi je ne l'ai pas dans ma poche, mais qu'on lance cette réflexion. Et ensuite, qu'on regarde comment changer notre manière d'assurer la sécurité pour réduire très fortement le nombre de blessés qu'on fait dans ces cas-là.
Israël a frappé des cibles en Syrie le week-end dernier pour déjouer une attaque selon l'armée israélienne. Du coup, la tension monte dans la région. Le gouvernement israélien se prépare aussi à des élections législatives qui auront lieu dans 3 semaines. Guillaume Deltey, RFI.
Liban, Syrie, mais aussi bande de Gaza, d'où 3 roquettes ont été tirées dimanche soir. La tension est montée aux frontières nord comme sud d'Israël. Et ce lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni le cabinet de sécurité. La rencontre a duré 4 heures. Mais plus inhabituel, le chef du gouvernement a annoncé avoir ordonné que son principal rival aux élections législatives du 17 septembre, Benny Gantz, soit informé de l'évolution de la situation. Une démarche inattendue si le chef de l'opposition doit être informé avant une opération militaire, l'ancien chef d'état-major ne bénéficie pas de ce statut. Benjamin Netanyahou ayant échoué à former un gouvernement, le Parlement israélien ne compte actuellement ni majorité ni opposition. Le sens de cette démarche et la publicité qui lui a été donnée par le Premier ministre suscitent donc de nombreux commentaires. Certains analystes y voient un message envoyé à l'Iran et Hezbollah que malgré la période électorale, le gouvernement israélien est prêt à un conflit. D'autres y voient une manœuvre politique. En dramatisant la situation et en désignant Benny Gantz comme un possible chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou pourrait chercher à mobiliser son électorat.
En Afrique, en République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a présenté hier la composition de son gouvernement. Précision de Florence Meurice pour RFI.
Incarner une rupture, c'est l'un des objectifs que s'était fixé le président Félix Tshisekedi avec ce gouvernement. Un défi de taille puisque l'ex-président Kabila rafle quasiment les deux tiers des postes en raison de la confortable majorité qu'il a conservée sur le Parlement. Dans sa brève allocution, au milieu de la nuit, le Premier ministre a tout de même insisté sur un point. 76,9% des personnalités choisies n'ont jamais participé auparavant à un gouvernement. C'est la principale innovation selon le Premier ministre. Un gage de changement, même si cela a pu dérouter certains observateurs à l'énoncé de la liste. Un renouvellement qui reste toutefois partiel. Plusieurs anciens ministres de Joseph Kabila figurent dans l'équipe à des postes parfois importants, comme par exemple Emengoy Mukena, qui hérite de la Défense, Steve Mbikayi, désormais ministre de l'Action humanitaire, ou encore Azarias Rouberoua, qui devient ministre d'État à la Décentralisation. L'ex-président place aussi quelques fidèles lieutenants parmi les nouveaux entrants. C'est le cas notamment de Célestin Tounda à la justice, le secrétaire général adjoint de son parti, le PPRD, ou encore Papi Pungu, une personnalité controversée pour ses positions radicales lorsqu'il était à la tête des jeunes leaders du PPRD.
Le procès Weinstein a été reporté aux États-Unis après de nouvelles accusations. Une troisième femme, une actrice, l'accuse de viol. Précision de Eric de Salve pour RFI.
En plus des deux femmes à l'origine de son inculpation pour agression sexuelle, une troisième se joint maintenant au dossier. Il s'agit d'Annabella Sciorra, connue pour son rôle dans la série Les Sopranos. L'actrice accuse Harvey Weinstein de l'avoir violée en 1993. Elle avait déjà témoigné en 2017 dans le magazine New Yorker, mais jusqu'à maintenant, elle ne s'était pas manifestée devant la justice. Ces accusations sont prescrites, mais l'actrice peut néanmoins être entendue sous serment. Objectif, alourdir au maximum le cas de Weinstein en le condamnant pour le chef d'inculpation le plus grave, c'est-à-dire agression sexuelle prédatrice. Pour cela, l'accusation devra convaincre le jury de la répétition des agressions. Au total, plus de 80 femmes ont accusé Weinstein, mais le nombre de celles qui seront entendues lors de son procès est encore inconnu. Ce lundi matin à New York, Harvey Weinstein a très rapidement comparu devant le tribunal. Le procureur l'a informé de ce nouvel acte d'accusation. Fidèle à sa ligne de défense, Weinstein, qui risque la prison à perpétuité et qui a toujours parlé de relations sexuelles consenties, a une fois de plus plaidé non coupable.
Un voisin près de l'Australie, l'Indonésie, compte changer la capitale Jakarta et la nouvelle capitale se situera sur l'île de Bornéo. Précision de Christophe Paget pour RFI.
Depuis qu'elle est indépendante, l'Indonésie n'a jamais choisi sa capitale, a souligné ce lundi le président Widodo, qui parle du nouveau site dans la province orientale du Kalimantan, sur l'île de Bornéo, comme d'un lieu idéal, au centre géographique de l'archipel et avec un risque minimal de catastrophe naturelle. Contrairement à Jakarta, menacée par les inondations, les risques sismiques, sans parler de son extrême niveau de pollution et puis bien sûr le fait qu'elle s'enfonce sous les eaux de 10 cm par an, les habitants qui ne bénéficient pas de l'eau courante pompent directement les nappes phréatiques, ce qui entraîne l'affaissement de quartiers entiers. Jakarta, à ce rythme, pourrait se retrouver sous la mer d'ici 2050. Il faut alléger le fardeau supporté actuellement par Jakarta, expliquait le président indonésien, à la fois centre politique, économique, financier, commerce, service. La nouvelle capitale, qui n'a pas encore été nommée, centraliserait donc les pouvoirs exécutifs, mais aussi législatifs et judiciaires. Le coût du déménagement est estimé à près de 30 milliards d'euros, ce qui inclut la construction des nouveaux locaux du gouvernement et le déménagement d'1,5 million de fonctionnaires qui commenceraient à s'y installer en 2024. Mais le gouvernement doit déjà élaborer une loi et la proposer au Parlement, qui acceptera ou pas ce gigantesque déménagement.
On passe maintenant à la météo pour ce mardi en Australie. Perth maximale de 22 degrés, Adélaïde 15, Melbourne 16, Hobart 16 également, Canberra 15, Sydney 16, Brisbane 26, Cairns 28, Darwin 33 et à Alice Springs maximale de 22 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 27 août. En Australie, un rapport alarmant révèle un nombre record de décès par overdose. Un Australien arrêté officiellement en Chine et accusé d'espionnage. Le sommet de Biarritz s'est achevé avec une déclaration sur le commerce et les crises internationales. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.